nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue pour cette rubrique Focus consacrée au DVD. Aujourd'hui, un DVD sur l'éthique, la bioéthique, sur Jean Bernard, dont le titre est « Éthique, bioéthique, état des lieux et témoin d'un siècle, le professeur Jean Bernard ». Ce sont deux documentaires sur la vie et l'œuvre de l'éminent scientifique. Et pour en parler, nous recevons Hélène Renard. Bienvenue, bonjour Hélène.
Bonjour.
Et donc vous recevez Ron Lévy, l'auteur de ces deux documentaires.
Voilà, c'est le réalisateur. Bonjour monsieur Lévy, merci d'être venu jusqu'à notre studio. Dans quelles conditions avez-vous rencontré monsieur Jean Bernard?
De manière très très simple, c'est-à-dire que je lui écris. Et il a accepté de me recevoir. Alors la question est pourquoi je lui ai écrit. Donc c'était au siècle dernier, d'une part, donc il n'y a pas très longtemps, à un moment où je croyais encore que la télévision pouvait servir le savoir et pouvait être un canal de savoir, et à un moment aussi où j'étais un petit peu excédé de l'abus du terme éthique à toutes les sauces, y compris l'éthique dans le commerce, etc. Alors qu'on sait que, quelque part, elle n'a pas grand-chose à y faire ou on n'y tient pas compte. J'avais été aussi surpris par l'interview de quelques scientifiques et quelques-uns, je tairai les noms, qui participaient au comité d'éthique et qui m'avaient semblé en difficulté pour définir le terme éthique. Donc j'ai pensé qu'il valait mieux s'adresser à un qui sait plutôt qu'à 10 qui cherchent. Et j'ai contacté le professeur Jean Bernard. Il a eu l'amabilité de me répondre. Nous nous sommes rencontrés à deux ou trois reprises. Je lui ai dit quel était mon projet. Et de manière très simple, nous avons fait ce premier film, Éthique bioéthique, où il définit le terme éthique. Il montre comment la bioéthique a envahi le champ de l'éthique. Et puis surtout, il fait en une heure un état des lieux.
On va dire quelques mots sur le professeur Jean Bernard, juste pour rappeler les principales données de sa carrière. Il est né en 1907 et il est mort le 17 avril 2006, donc ça fait tout juste 4 ans puisque cette année nous sommes en 2010. Il avait été élu à l'Académie des sciences en 1972, élu à l'Académie nationale de médecine en 1973 et à l'Académie française en 1975. Il succédait à Marcel Pagnol sur le 25e fauteuil. Et donc, nous pouvons, en cette année 2010, commémorer le départ d'un homme qui a beaucoup compté dans les académies, qui a joué un très grand rôle. Éthique, vous disiez qu'on en parlait beaucoup, mais on en parle encore plus en ce moment, puisque c'est la période de la révision des lois éthiques et de bioéthique. Si vous voulez bien, on écoutera Jean Bernard nous définir l'éthique.
Je relisais il y a quelques mois à l'école des femmes. Molière met en scène un vieillard dont tout le monde se moque, que sa jeune femme trompe, son grand âge est objet de dérision. Ce vieillard a 42 ans, même pas. Il est dans la 42e année de son âge. Actuellement, l'espérance de vie est de 75 ans pour les hommes, 81-82 ans pour les femmes. Cette prolongation de la durée de la vie est une des conséquences des très remarquables progrès de la médecine. La médecine a plus changé pendant les 60 dernières années que pendant les 60 siècles précédents. Deux révolutions se sont succédées. La révolution thérapeutique, qui commence avec les sulfamides en 1937, et la révolution biologique dans les années 50-60. Ces deux révolutions ont transformé le destin des hommes, en particulier ont pratiquement empêché la mort des enfants, mais elles ont posé des problèmes moraux tout à fait inconnus de nos prédécesseurs. Et à ce moment, on a vu arriver un nouveau mot, le mot éthique. Le mot moral paraît scolaire, vieilli, désuet, et le mot éthique a un succès considérable. Alors quand arrive un nouveau mot, il faut ouvrir les dictionnaires. Alors, j'ai ouvert les dictionnaires à ma disposition et j'ai trouvé ceci. Dictionnaire de l'Académie française, 1776. Éthique signifie morale et n'a d'usage que dans le didactique. On appelle les éthiques d'Aristote les ouvrages moraux d'Aristote. 1978 pour la 9e édition. Adjectif qui concerne la morale. Précepte éthique, jugement éthique. De l'éthique, la science de la morale, titre de divers ouvrages philosophiques. Dans le littré, substantif, terme de philosophie, la science de la morale. L'éthique politique a deux objets principaux, la culture de la nature intelligente et l'instruction du peuple. Dans le Robert, science de la morale, art de diriger la conduite, ouvrage traitant de cette science, de cet art. Alors, quand on est embarrassé, on cherche l'étymologie. J'ai ouvert un dictionnaire grec. Il y a deux mots éthos. L'un veut dire ensemble des comportements et l'autre la juste place de toute chose. Et là, nous avons une très bonne définition. L'éthique, c'est la relation de la personne avec l'environnement. Et il faut ajouter que, pratiquement à l'heure actuelle, l'éthique de la vie a tellement d'importance que le mot bioéthique est presque synonyme du mot éthique et qu'il a une double origine, celle que je viens de rappeler, les progrès de la médecine, mais une autre. C'est la connaissance qu'on a prise après la fin de la dernière guerre de l'épouvantable attitude des médecins nazis qui utilisaient les déportés et les enfants comme des animaux de laboratoire. Et ce sont les deux origines de la bioéthique. Et je vous propose le plan suivant. Premièrement, conséquences éthiques de la révolution thérapeutique. Deuxièmement, conséquences éthiques de la révolution biologique. Et troisièmement, les solutions que l'on peut à l'heure actuelle envisager.
Ron Lévy, il y a éthique, bioéthique, état des lieux. On vient d'entendre le professeur Jean Bernard, mais il y a aussi témoin d'un siècle. Alors, le professeur Jean Bernard a abordé quelle période ? Car en effet, sa vie a couvert quasiment un siècle.
Après cette première expérience où j'ai eu donc l'occasion de le filmer pour traitant de ce sujet, et comme il avait traversé le 21e siècle et notamment les deux révolutions. Le XXe siècle, et notamment les deux révolutions les plus importantes qui avaient affecté la médecine, à savoir la révolution thérapeutique et la révolution biologique, eh bien, j'ai souhaité brosser l'ensemble de sa vie. Et là aussi, c'est prêté au jeu avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'amabilité. Et donc, on a fait un deuxième document où je lui ai demandé en 4 lieux et en 6 parties de nous résumer non seulement sa vie, mais aussi sa pensée.
Alors, ces 6 parties, c'est d'abord son enfance. C'est d'ailleurs très intéressant à écouter. J'y ai pris grand intérêt. Et puis, la période de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a vécue. C'était un grand résistant et aussi prisonnier. Après sa vie, mes académies, c'est-à-dire il raconte le fonctionnement des académies, l'Académie des sciences et l'Académie française, et là vous l'avez tourné d'ailleurs dans la salle des séances, c'est assez rare, je dois dire, vous avez eu un privilège, vous vous en souvenez ?
Oui, absolument. Enfin, je ne sais pas si c'était rare ou c'était... Mais vraiment, tout ce qui s'est passé avec le professeur Jean Bernard, ça s'est fait facilement. Le contact a été facile, filmer a été facile. J'ai eu les autorisations pour filmer ici à l'Institut, sans problème. Les seules difficultés que j'ai pu avoir, ça a été quand j'ai souhaité faire quelques vues dans le jardin du Luxembourg, où là, les gars...
Il faut demander une autorisation, c'est payant, normalement.
L'autorisation, je l'avais. Non, j'avais l'autorisation du Sénat, donc de filmer, ça a été vraiment la seule difficulté.
Et c'est vrai votre film a des images pour une interview, c'est au fond une grande interview filmée. Il y a des images très variées, il y a des plans très variés, parfois on le voit de loin, parfois on le voit de beaucoup plus près. C'est très touchant, il est extrêmement présent dans ce film.
D'ailleurs, même, il m'a piégé en tant que réalisateur, parce que notamment dans le premier film, Éthique, bioéthique, je voulais aborder les problèmes, et bien évidemment, puisque c'était à la télévision, et bien évidemment, puisqu'à la télévision, on vous demande des images, je comptais l'illustrer au départ. Il m'a piégé dans la mesure où chaque propos, il l'a illustré. Et donc, je me retrouvais devant une impasse, soit coller des images sur l'illustration qu'il faisait et ça devenait redondant, soit le laisser carrément à l'image. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin d'autre chose.
Non, parce qu'il est intensément présent. Alors, après avoir évoqué l'enfance, la médecine, ses années de médecine, c'était un hématologue, je le rappelle, la guerre, les académies, il y a des généralités sur la médecine, notamment, et ses évolutions, et enfin sur l'avenir, et ce n'est pas le moindre intérêt que d'écouter le professeur Jean Bernard. Merci, monsieur Ron Lévy. Je conseille très vivement donc à nos auditeurs de se procurer ce DVD « Éthique, bioéthique », deux documentaires filmés par Ron Lévy, l'autre c'est « Témoins d'un siècle », mais les deux vont ensemble. C'est une coproduction des films DAC, de la TV d'Angers, le CNRS, on peut se le procurer.
Chez Dorian Film, donc Dorian le site c'est les trois W habituels, dorian-film.com.
Très bien. Alors, merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter le professeur Jean Bernard évoquer justement ses souvenirs de guerre.
Merci beaucoup Hélène, merci Ron Lévy d'être venu dans cette émission pour cette rubrique consacrée au DVD que vous pouvez retrouver sur canalacademy.com.
Merci à vous.
Pendant la guerre, surtout à cette période, seul compte est chirurgien, les médecins jouent un rôle secondaire. Je suis affecté successivement à deux ambulances chirurgicales, l'une l'ambulance chirurgicale lourde qui siège entre Laon et la frontière belge, puis à la fin de l'année, au début de l'année suivante, à une ambulance franco-britannique qui s'appelait Hatfield Spears. Lady Hatfield était une dame très fortunée britannique qui avait accordé une somme importante à la création d'une ambulance franco-anglaise que dirigeait son amie Mrs. Spears, femme du fameux général Spears qui a plus tard emmené le général de Gaulle en Grande-Bretagne. Et cette ambulance était en quelque sorte mixte. Le personnel féminin était britannique et les médecins, le personnel était masculin, étaient français. Nous siégeons à la frontière sarroise, là où on se battait déjà un peu. Puis, lorsque arrivent les événements de mai 1940, nous faisons une terrible retraite qui va depuis Sarreguemines jusqu'à Brive. Et j'ai gardé un souvenir très cruel de la traversée de la Loire. La Seine, la Marne, nous avions appris que c'était des fleuves, des rivières qui avaient des relations avec une guerre qui pouvait bien se terminer, mais la Loire. Enfin, à Brive, les Anglais sont partis jusqu'à Bordeaux, puis sont rentrés en Grande-Bretagne et je suis revenu à Paris et j'ai repris tristement ma vie de médecin et j'ai été à ce moment-là, très tôt, fin septembre, début octobre 40, touché au téléphone par René Parodi, magistrat que je connaissais, qui créait un des premiers groupes de résistance. Vous savez qu'il y a beaucoup de résistants de 1946-47. Moi, j'ai le privilège d'être un des très rares résistants de 1940. J'en ai la carte. Et nous étions très maladroits, ignorants à l'époque. On distribuait des tracts, on a aidé les étudiants à une manifestation à l'Arc de Triomphe en novembre 1940. Tout ça n'allait pas très loin. Et malgré, et peut-être à cause de ces insuffisances, la police allemande a reconnu l'existence du réseau et le réseau a été démantelé. René Parodi a été arrêté. Il est très vite mort en prison. Les Allemands ont prétendu que j'étais suicidé, mais en réalité, il était très probablement été exécuté. Et on m'a dit qu'il fallait que je m'éloigne. Mes beaux-parents avaient une maison en Touraine, près d'Amboise. Et je suis arrivé là, je me suis caché, disant que j'étais malade. Mes enfants y vivaient déjà, parce qu'à l'époque, on mangeait très mal à Paris et on était assez bien nourris à la campagne. Et j'ai passé plusieurs mois dans une chambre, soi-disant malade, ce qui m'a permis d'écrire un traité d'hématologie et un roman. Le traité d'hématologie, je le dis au passage, par parenthèse, a été la seule occasion, le seul cas où j'ai étonné mon ami Amburger. En 1945, peu après la libération, Amburger vient me trouver et me dit avec mon maître, Pasteur Valéry Radeau, qui est le petit-fils de Pasteur, nous avons un accord avec une grande maison d'édition pour publier une série de traités de médecine. Accepterais-tu d'écrire le traité consacré aux maladies du sang et dans combien d'années penses-tu le donner? Je lui dis le voilà. Il avait été écrit pendant ces mois de solitude en Touraine. J'ai écrit aussi un roman, mais qui est assez médiocre et qui met en scène des amis, donc il me paraîtra que très longtemps après ma mort, s'il paraît, à titre posthume. Après quelques mois, il m'a semblé que ça suffisait comme isolement et j'ai décidé d'aller reprendre la résistance, mais cette fois-ci en zone non occupée. Qui était certainement plus facile d'agir qu'en zone occupée.
Et grâce à l'aide d'un paysan ami, j'ai réussi à franchir la ligne de démarcation qui coupait la France en deux, à rejoindre Marseille où vivaient deux personnes de ma famille. Et un de mes cousins qui vivait là me demande d'examiner l'enfant d'un de ses amis qui avait des ganglions au cou. J'examine l'enfant, je fais une ordonnance, vous verrez tout à l'heure l'importance de cette ordonnance. Et puis je bavarde avec le père de l'enfant et je comprends qu'il est membre d'un groupe important de résistance franco-britannique. Et je réussis à pénétrer dans ce groupe. Et c'était un réseau qu'on appelait réseau action. Il y a eu pendant la résistance deux sortes de réseaux, des réseaux action et des réseaux renseignement. Le réseau action était du travail plein temps. On allait accueillir des bateaux qui s'appelaient d'un angle, qui s'appelaient des feluccas, les feluccas en français, c'était des bateaux anglais qui venaient très lentement de Gibraltar et qui apportaient du matériel, des armes, des mitrailleuses, des bombes pour favoriser l'activité du mouvement de résistance. Ou bien on allait sur un terrain dans les Alpes recevoir des armes et des matériels par parachute avec très rarement même des opérations d'atterrissage. J'ai gardé le souvenir d'un très cruel échec. On nous avait demandé de faire conduire en Angleterre des hommes politiques importants qui ralliaient De Gaulle, deux généraux. Nous sommes arrivés sur le terrain d'atterrissage. L'avion anglais est arrivé aussi, nous l'avons vu. Il a tourné autour du terrain quelques temps, puis il a dû soupçonner quelques dangers allemands et il est reparti. Et nous avons dû revenir à Marseille avec nos généraux, nos hommes politiques, vous imaginez les conditions que vous pouvez imaginer. Puis, un peu plus tard, début de l'année 43, la catastrophe est tombée sur le réseau. Et plusieurs d'entre nous ont été arrêtés. Un des membres du réseau avait eu l'imprudence d'avoir un petit carnet sur lequel il marquait les vrais noms et les pseudonymes des noms du réseau. Il a perdu ce carnet dans un train. Vous voyez les conséquences. J'ai gardé un souvenir très précis d'un très courageux colonel de gendarmerie qui est venu dans la maison où j'habitais à Marseille et qui a dit « Monsieur Bernard, sauvez-vous, vous allez bientôt arrêter ». Et en effet, j'étais menacé, alors j'ai quitté Marseille. J'ai gagné la zone libre avec d'autres difficultés, mais nous avions des liens très étroits avec les personnels des chemins de fer qui, il faut dire au passage, a été d'un admirable courage pendant toute cette période. L'un d'entre eux m'a fait passer la ligne et je suis revenu de l'autre côté en zone occupée. Auparavant, je dois rappeler un souvenir que je n'ai pas évoqué, c'est celui de notre coopération avec la tentative du général de Lattre de Tassigny. Quand les Allemands ont occupé toute la France, le général de Lattre, qui commandait la région de Montpellier, a eu l'idée de résister aux Allemands, en espérant qu'à travers l'Espagne, on pourrait d'Afrique lui apporter des secours. Et on nous a demandé, au réseau dont j'étais un des membres importants, d'aller installer dans les Pyrénées un appareil de radio-émission qui permettrait au général de Lattre de s'adresser aux Français. C'était l'époque où il y avait de rudes revers de l'armée allemande en Russie. Et nous avons fait, dans la camionnette qui avait le poste de radio caché, nous avons fait le trajet Marseille-Montpellier en croisant deux divisions allemandes qui quittaient la France pour repartir en Russie. Des sous-officiers allemands assuraient les croisements. Vous imaginez qu'à n'importe quel moment, ils auraient pu demander à vérifier qui nous étions et à trouver le poste de radio-émission dans la camionnette. Finalement, rien ne s'est passé. Nous avons remonté difficilement, car à l'époque, les moteurs marchaient très mal. On a monté en partie en marche arrière les Pyrénées, et dans la région de Montluy, on a installé le poste de radio-émission. J'ai résisté à la tentation de parler aux Français. Et je suis redescendu, et puis j'étais tout à fait surpris, il n'y avait rien. Et à Perpignan, on m'a appris que la tentative du général de Lattre avait échoué, qu'il avait été trahi par quelques-uns de ses collaborateurs, que les gens de Vichy avaient transmis les informations allemandes, que de Lattre avait été arrêté. Vous savez qu'il a réussi à sauver et le rôle important qu'il a joué ultérieurement. Alors je reviens à mon retour à Paris. J'étais naturellement très préoccupé et redouté d'être poursuivi. Une de mes cousines était très liée avec le père Avril, illustre dominicain qui dirigeait un couvent dominicain à Étiolles, dans la banlieue de Paris. Et le père Avril a accepté de me cacher et j'ai été bibliothécaire adjoint du couvent pendant un mois et demi, jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'en dehors de moi, il y avait deux aviateurs anglais tombés du ciel qui étaient cachés. Ça m'a paru alors un endroit pas très rassurant, et j'ai quitté le couvent, et j'ai repris mes occupations de médecin, et c'est là que, deux mois après, j'ai été arrêté par les Allemands. Après avoir passé plusieurs mois d'attente en prison, et très gravement tourmenté, et avant tout par des parasites. Poux, puces, punaises, galles, on se grattait du matin au soir et du soir au matin. Je suis, après plusieurs mois, appelé devant un tribunal de magistrats et de policiers allemands, et assez curieusement, dans la nuit qui a précédé cet interrogatoire, j'avais brusquement pensé à ma résistance, à laquelle je m'étais forcé pas penser pendant le mois précédent, et j'avais songé à cette ordonnance que j'avais faite pour mon camarade de ce réseau, pour son enfant, avant d'entrer dans le réseau. Et j'arrive devant le tribunal allemand, ayant dans la nuit construit une défense fondée sur cette ordonnance. Et je vois l'ordonnance sur le bureau des magistrats allemands. Ils m'interrogent et ils me disent « Dans quelle ville avez-vous été pendant l'année 1941-42 ?»« Amboise, Tours, Marseille. » »« Comment Marseille ?»« Oui, Marseille. Pourquoi ?»« Parce qu'on ne trouvait pas les journaux scientifiques en zone libre, en zone occupée, et j'en ai besoin pour ma recherche, et j'allais à Marseille pour ça. Qui avez-vous rencontré à Marseille ?» J'en ai une série de noms, dont celui du père de l'enfant, dont je savais qu'il avait quitté la France entre-temps. « Ah, qu'avez-vous fait avec lui ?» Je soignais son enfant, et j'entends l'un des magistrats allemands qui dit à son voisin « Nos policiers ne font jamais rien d'autre que d'arrêter des innocents. » Et c'est grâce à ça que j'étais considéré comme simplement responsable d'une ordonnance, qui n'ont pas compris que j'avais appartenu au réseau. J'étais remis en prison. Ça a duré encore assez longtemps, encore un mois, et puis j'étais libéré. Et en sortant, on m'a fait prêter serment de rien entreprendre contre l'armée allemande, un serment dont, bien entendu, la valeur était limitée. Et j'ai, un peu plus tard, je suis rentré dans un autre groupe de résistance que dirigeait un de mes amis imprimeurs, qui habitait rue de Lambre, et qui était un groupe de résistance renseignement. Les groupes de résistance action, c'est le travail plein temps. Le renseignement, c'est le contraire. Il fallait avoir une profession, celle de médecin, et puis recueillir beaucoup d'informations. Je me rappelle que nous avions donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, des liens très forts avec les employés des chemins de fer, qui nous indiquaient les déplacements de l'armée allemande. Et lorsqu'il y a eu la bataille de Normandie, ils nous ont informé des divisions allemandes qui partaient du sud de la France vers Normandie. Nous avons transmis l'information à Londres, les avions anglais sont venus, ont manqué division allemande. Les gens de Schmessen sont prévenus, c'est manqué, nous avons reprévenu Londres, indiqué l'endroit, une autre équipe d'avions, une autre escadrille est venue, cette fois-ci, a liquidé la division allemande, ceci pour montrer l'importance de ces informations. Enfin, je terminerai par la libération de Paris, à laquelle j'ai pris la part que je pouvais prendre, et avec des sentiments très remarquables qui sont que même quand il y a de telles bagarres, telles guerres comme celle-là, la vie continue, n'est-ce pas ? Je citerai deux exemples. J'avais un voisin qui habitait, à l'époque j'habitais 86 rue de la Sarthe. J'avais un voisin qui habitait au-dessus de moi, qui était M. Pauffilé, illustre professeur de lettres, grand résistant. J'étais chez lui quand il est appelé au téléphone. Je signale au passage que pendant la période où ça ne va pas, les autorités perdent le contrôle, chose importante. Les Allemands auraient dû couper le téléphone pendant la bataille de Paris. Le téléphone marchait. M. Pauffilé était appelé par un de ses amis, commandant un escadron de la division Leclerc qui avait son état-major à la closerie des Lilas et qui bavardent ensemble. Et puis, nous voyons par la fenêtre arriver des chars Leclerc qui viennent attaquer le lycée Montaigne, qui était sous nos fenêtres et qui était un lieu très important de l'aviation allemande, état-major, etc. Et les chars ne voient pas les mitrailleuses et reculent. M. Pauffilé appelle la closerie des Lilas au téléphone, dit voilà où sont les mitrailleuses, les chars reviennent, liquident les mitrailleuses. Autre souvenir de cette époque, pour rejoindre un poste de secours, place Saint-Michel, je devais traverser le boulevard Saint-Germain. Le char a été balayé entre les chars alliés et les chars allemands. J'avais à côté de moi une brave dame, ménagère française, d'une cinquantaine d'années, avec ses deux cabas, qui s'engage sur le boulevard, sous le feu. Je la retiens. « Comment, monsieur, vous n'avez pas empêché de faire mon marché ?» Bien que la vie continue dans ces périodes. Et enfin, dernier souvenir, une fois libéré, libérer Paris, je me suis réengagé dans l'armée, j'ai été affecté à la division de l'Atlantique et j'ai terminé la guerre face à l'Ouest. C'est très rare dans les guerres des Français.